Merci. Voilà, je vais donc vous décrire rapidement et succinctement quelques éléments clés d'un programme de formation pilote de soignants de ville à l'éducation du patient, à l'éducation thérapeutique, ses principes, ses contenus et l'évaluation de ses effets à plusieurs niveaux. Le projet du réseau qui s'appelle Pôle Santé du Douaisy est un réseau qui se présente comme un réseau multithématique plutôt que non thématique. Il s'intéresse à toutes les maladies chroniques. Il est multiprofessionnel, donc il intègre en son sein des professionnels de toutes catégories, de la même manière, de manière tout à fait participative, y compris des associations de patients d'ailleurs. Ses particularités, c'est qu'il a réussi à obtenir par le biais des jeux de financement à la fois des soutiens financiers pour les patients qui sont membres du réseau, c'est-à-dire la suppression totale des tickets modérateurs, un soutien financier pour les soignants, c'est-à-dire à la fois un soutien financier pour pouvoir participer aux formations qui sont organisées et à la fois un soutien financier qui permet d'être rémunéré pour les actes éducatifs qu'ils posent. Tant qu'à faire dans les projets pilotes, autant se donner les moyens de les réaliser correctement. C'est un réseau qui a aussi comme particularité de travailler de manière importante sur le partage des données et l'échange des données entre soignants et entre soignants et patients par le biais d'un double dossier dit partagé, comme ça se trouve dans d'autres types de réseaux, un dossier informatisé qui permet de partager les données strictement médicales et un dossier papier qui est la propriété du patient qui, lui, en devient l'élément d'articulation entre patients et soignants. Ce projet intègre aussi une formation indispensable et obligatoire pour tous les soignants qui en font partie, ce qui résout le problème de motivation, ils n'ont pas le choix. Et enfin, il a proposé avec le temps une série d'offres de services différents, aussi bien aux soignants qu'aux patients, qui passent aussi bien par des groupes de parole pour les soignants comme pour les patients. Quand tout à l'heure un collègue disait qu'il faut ouvrir l'espace pour que les soignants puissent parler entre eux, expliquer, raconter leurs expériences, leurs difficultés, leurs possibilités, c'est exactement ce qui se passe là. Des ateliers de diététique, des ateliers d'exercice physique, et une série d'activités qui sont proposées en fonction des demandes qui émergent et qui apparaissent. Le programme de formation qu'on a intégré dans le cadre de ce projet et auquel mon équipe et moi-même avons participé et avons créé, il a voulu travailler sur quatre aspects essentiels relatifs à ce projet. Le premier, c'est une analyse des besoins de qualité, aussi bien des besoins d'éducation que d'accompagnement psychosocial, une amélioration de l'approche globale et continue des soins, globale, c'est-à-dire s'intéressant aux aspects biologiques et psychologiques et sociaux des patients, et continue, c'est-à-dire qui intègre les différents soins à ces patients chroniques dans la vie et dans la durée de la maladie. S'intéresser aussi à la relation de soins, à la communication en plus de l'éducation, nous sommes de plus en plus convaincus que à la base de toute formation et de toute activité d'éducation thérapeutique, il y a la mise en place d'une relation thérapeutique et d'une relation de soins, voire d'un contrat médical, pour l'appeler comme ça, adéquat, cohérent, dans lequel il y a un respect mutuel, dans lequel il y a un partenariat qui s'établit, dans lequel il y a une confiance qui se construit. Tout ceci devient un préalable à l'éducation thérapeutique et une nécessité absolue. Et enfin, mettre en place un travail, puisqu'il s'agit de maladies chroniques, un travail de formation et d'apprentissage d'une évaluation, et en particulier d'une évaluation formative, apprendre à s'évaluer en tant que soignant, à évaluer le patient et à aider le patient à s'évaluer de manière formative, c'est-à-dire visant l'amélioration de ce qu'on fait et pas juste pour porter des jugements. Et donc, dans la foulée, mettre en place, apprendre à créer, à faire un suivi éducatif. C'est la spécificité de l'équipe de Louvain que je dirige, c'est de s'intéresser à l'éducation du patient, à l'éducation thérapeutique du patient, en particulier sous l'angle psychosocial, ce qui ne veut pas dire l'angle psychologique et social, c'est l'angle psychosocial de l'éducation thérapeutique et qui fait la particularité de cette formation. Je rappelle que dans la définition que l'OMS a apportée de l'éducation thérapeutique, on définit l'éducation thérapeutique du patient comme un ensemble d'activités de sensibilisation, d'information, d'apprentissage du traitement, de soutien psychosocial, tous liés à la maladie et au traitement. Donc, ne faire qu'une partie de ces activités, ce ne serait pas de l'éducation du patient. Ce programme de formation, je vais vous dire un petit mot de son contenu, sinon l'évaluation n'aurait pas de sens. Quatre axes de compétences principaux à développer ou à atteindre. Le premier concernant ce qu'on appelait l'analyse de la situation, être capable d'analyser les besoins du patient, besoins objectifs et subjectifs, être capable de faciliter l'expression des attentes et des souhaits des patients. Il ne suffit pas d'ouvrir les portes, il faut encore inviter les gens à entrer. La capacité de poser un diagnostic éducatif adéquat et la capacité d'identifier les priorités respectives du patient et du soignant. Deuxième point, deuxième objectif, être capable de définir une intervention ou des interventions à mettre en place en fonction des besoins qu'on a identifiés, être capable de négocier des objectifs avec le patient dans le temps et dans l'espace, être capable de choisir et de mettre en œuvre des actions nécessaires à l'éducation thérapeutique, telles que informer, conseiller, expliquer, enseigner, montrer, faire, soutenir, renforcer, utiliser l'erreur, qui sont autant de compétences et autant d'activités ponctuelles, différentes et tout à fait complémentaires. Améliorer la qualité du suivi du patient, être capable d'observer les changements dans le temps, être capable d'analyser la nouvelle situation observée d'une rencontre à l'autre, d'une visite à domicile à l'autre ou d'une consultation à l'autre, d'être capable d'évaluer avec le patient où il en est et quel chemin il parcourt, et enfin être capable de réajuster, toujours avec le patient, les objectifs et les actions qu'on va mener. Et enfin, dans le cadre d'un réseau, ça reprend un peu le sens de la question que je posais tout à l'heure, être capable d'améliorer la qualité de la concertation et de la communication entre soignants. Si on n'est pas fichu de communiquer entre soignants qui visent à soigner les patients, on peut imaginer qu'on aura des difficultés à communiquer avec les patients eux-mêmes. Voilà, les deux référentiels clés qui ont été utilisés pour concevoir cette formation, d'une part les recommandations de l'OMS en matière de compétences des soignants et de qualité de l'éducation thérapeutique, et d'autre part un guide de soins palliatifs écrit par deux spécialistes belges qui ont écrit un document qui s'appelle « Aux sources de l'instant », que je vous recommande par ailleurs, parce qu'il y a une version française qui a été faite entre-temps. Le programme de formation, les principes, petit groupe, une douzaine de professionnels au total, multiprofessionnels, la décision a été prise et est rendue obligatoire de former des équipes soignantes, des gens qui collaborent et qui travaillent ensemble, composées à la fois de médecins, de paramédicaux, d'infirmiers, de psychologues et autres. Il était exclu de former séparément les différentes catégories professionnelles parce que ça venait à l'encontre même du principe du réseau. Avec trois principes, travailler sur les situations concrètes exclusivement, avec un retour permanent sur la pratique. Chaque fois qu'on travaille sur une question, sur un sujet ou sur une activité, l'idée était de laisser la possibilité à chaque soignant de retourner dans sa pratique, de tester ce qu'il est en train d'apprendre et de revenir avec des résultats positifs ou au contraire des commentaires du style « votre truc, il ne marche pas ». La possibilité d'ajuster en cours de formation, c'est ce qui fait que finalement, la partie formelle de la formation durait 6 mois, pour 9 séances, parce qu'on avait décidé qu'il était important à la fois pour la gestion de l'emploi du temps des professionnels de santé, mais à la fois aussi pour laisser le temps de tester dans la pratique ce qu'on était en train d'apprendre, de séparer les différentes séances de formation de 3 semaines en moyenne. Pas trop pour ne pas qu'on ait oublié entre-temps ce qui s'est passé, et pas trop peu pour laisser le temps de tester et d'essayer ça dans une pratique qui est surchargée, comme vous le savez tous. Utiliser des méthodes actives formant elles-mêmes à l'éducation. Il semblait absolument indispensable qu'un parallèle soit créé et soit maintenu entre la manière dont on forme les soignants et la manière dont ces soignants devront former et éduquer les patients. Donc il fallait utiliser les mêmes approches, le même regard et les mêmes méthodes et techniques de formation et d'enseignement. Et enfin, adapter les sessions aux besoins spécifiques et aux attentes des participants, notamment en créant un programme et des contenus qui étaient spécifiques au départ. Il y a un programme écrit sur papier, qui est disponible d'ailleurs pour quiconque veut en avoir une copie, formaté parce qu'il y a un pool, un groupe de formateurs qui ont été identifiés, une douzaine de formateurs différents qui intervenaient en fonction du programme. C'est un gros programme qui s'étendait sur 6 ans. Mais en même temps, il fallait que chaque formateur puisse s'ajuster aux besoins des soignants qui étaient en session, en séance. Donc les contenus, les thèmes, les sujets, les problèmes qu'on abordait étaient systématiquement ajustés et adaptés en fonction de ce que les soignants participants apportaient comme sujet. Ça revient exactement au même problème que lorsqu'on aborde ça avec des patients. Si on ne s'ajuste pas aux problèmes, aux priorités, aux préoccupations que le patient rencontre à un moment donné, on passe à côté des choses importantes. Les méthodes, je vous disais, méthodes pédagogiques variées, cohérente avec celle de l'éducation thérapeutique du patient. On a mis l'accent sur le travail aussi d'éducation de groupe par les soignants, et on s'est aperçu que certains médecins généralistes de ce réseau avaient fini par décider d'organiser des réunions et une activité éducative de groupe avec certains de leurs patients. Donc ils ont ajusté, adapté leur salle d'attente pour organiser une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois des réunions de groupe en essayant de contourner les difficultés de type légal, voire déontologique que ça posait, que ça a été soulevé tout à l'heure. L'ensemble de la formation se déroulait en trois phases. Une première phase qu'on appelait la formation de base, 9 séances étalées sur 6 mois, comme je le disais. Une deuxième phase qu'on appelait le monitorage de groupe. Le même groupe de formation se retrouvait 2 fois par an après la formation, et cela pendant 2 ans, sur des études de cas. Chaque participant revenait, une fois tous les 6 mois donc, avec 2 cas qu'il avait analysés en utilisant des outils qu'on leur avait fournis, 1 cas d'un patient qui avait évolué favorablement, et le cas d'un patient qui présentait des difficultés, qui avait évolué défavorablement du point de vue du soignant en tout cas. Et c'était l'occasion d'apprendre à discuter et échanger sur des problèmes concrets qui étaient présentés par chacun des soignants. Et enfin une troisième partie, qui est une partie de tutorat-conseil, c'est-à-dire que chaque soignante participant à cette formation avait le droit de choisir un des 12 formateurs qui étaient existants, voire même éventuellement quelqu'un d'autre, mais ils ne l'ont pas fait. Ils avaient droit à un crédit de conseil individualisé qui pourrait être géré en face à face, par téléphone, ou voire même par courrier électronique éventuellement. C'est-à-dire avoir recours de temps en temps à des gens qui avaient participé à la formation, qui étaient les formateurs, pour leur dire « j'ai une difficulté avec un patient, comment je gère ça ?» Le cas classique dont je me souviens le plus évidemment, c'est un médecin qui dit « j'ai un patient hypertendu, c'est la 6e fois qu'il vient me voir en 3 mois ». Et il ne fait strictement rien de ce que je lui ai demandé de faire. Qu'est-ce que je fais avec un patient comme ça? Au secours, l'éducation du patient. Alors, le premier élément de réponse a été de dire, est-ce que vous avez demandé à ce patient pourquoi il venait vous voir? Donc, voilà, parfois c'est juste inciter, renvoyer une réponse, une question qui permet parfois de débloquer les choses. Dans le cas en question, en tout cas, rien n'a été débloqué parce que ça n'avait pas résolu le problème. Alors au niveau du contenu du programme de formation, le premier module concernait l'analyse de la situation et des besoins du patient. 3 jours de formation, toujours la même structure. Le premier jour, formation approche générale du sujet, analyse de la situation et des besoins. Deuxième jour, mise en application concernant les maladies chroniques. Et un troisième jour, application aux soins palliatifs. Parce que dans le cadre de ce projet, de ce réseau, ils avaient estimé que sur le plan des bases, c'est-à-dire de la communication et de la relation de soins, il y avait beaucoup plus de proximité et de similitude entre la prise en charge des maladies chroniques et des patients en fin de vie, durant les 2 derniers mois de leur vie, c'est souvent ça, comme ça que ça se passe, que sur le plan en tout cas de la relation de soins et de la relation thérapeutique, il y avait plus de similitude que de différence entre la prise en charge de la maladie chronique et les soins palliatifs. Ce qui s'est avéré en partie vrai. Deuxième module, intervenir pour travailler sur des aspects comme être capable de négocier les objectifs, être capable de distinguer, de différencier les différents types d'interventions et de méthodes à utiliser quand on fait de l'éducation. L'éducation ne consiste évidemment pas uniquement en une activité d'explication ou de clarification de concepts ou d'explication. Ça sous-entend toute une série de compétences et de très concrètes, très pratiques. Quelle différence il y a entre informer un patient, conseiller un patient, enseigner un patient, soutenir un patient, soigner un patient, etc. Troisième module, c'est le travail du suivi et de l'accompagnement au long cours. La capacité d'observer les changements, d'observer et de faire observer les changements. Le fait qu'un soignant soit capable d'évaluer de manière détaillée les aspects biologiques, psychologiques et sociaux de l'évolution d'un patient, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'idéal, c'est qu'il puisse enseigner à son patient à le faire lui-même aussi. Le jour où les patients deviennent leur propre évaluateur, tout est gagné. Alors au niveau de l'évaluation, on a fait une évaluation en réalité en 2 temps. Une première évaluation au bout de 6 mois de la formation formelle pour comprendre ce qui avait changé dans les représentations de rôle des soignants, qu'est-ce qui avait changé dans leur tête sur leur façon de pratiquer, sur leur pratique professionnelle et qu'est-ce qui avait changé concernant leurs compétences et leurs compétences perçues notamment. Et puis dans un deuxième temps, 12 mois au moins après l'entrée des patients dans le réseau, une évaluation auprès des patients qui est une évaluation, en fait, non pas de ce que le patient fait au fond, c'est une évaluation de la qualité de la formation. On a essayé d'évaluer à travers les patients ce que cette formation avait apporté à la relation thérapeutique et aux patients. Pour les soignants, une évaluation individuelle par questionnaire auto-administré et puis une évaluation de groupe en cours et en fin de formation par le biais d'entretiens de groupe sur l'intérêt de la formation, son adéquation, sa pertinence, le fait qu'elle réponde ou non aux questions et aux préoccupations des soignants. Et alors au niveau des patients, en deux groupes, étalés dans le temps, forcément c'était la meilleure formule méthodologique. Un groupe pilote, les patients dont les soignants avaient participé à la formation dans les 6 mois précédents, et un deuxième groupe qui était des patients entrés dans le réseau, mais dont les soignants n'avaient pas encore participé à la formation. Ce qui nous permettait d'évaluer de manière précise l'impact de la formation et pas seulement l'impact du réseau. Quand je vous ai écrit le réseau tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait quand même toute une série d'avantages. Ici, ce qui nous intéressait, c'était de savoir qu'est-ce que cette formation, conçue de cette manière sur le plan philosophique et sur le plan du contenu, qu'est-ce que cette formation changeait dans les pratiques et dans les représentations des soignants et des patients. Alors, un questionnaire en 5 parties. Une partie sur les compétences perçues par les soignants, sur leur capacité à prendre en charge les patients. Une partie sur les connaissances spécifiques de base à acquérir, c'est-à-dire notamment comprendre ce qui peut influencer le comportement d'un patient. C'est quand même un des éléments clés sur le plan théorique. Si on ne comprend pas ce qui intervient et ce qui influence et quels leviers sont importants dans la manière dont le patient se comporte à l'égard de sa maladie, on est systématiquement amené à faire des choix erronés. Évolution de la représentation de rôle. Il y a plusieurs études de sociologie médicale qui montrent très clairement aujourd'hui que pour passer d'une compétence ou d'un savoir à une mise en pratique, il y a quelque chose qui passe par le filtre de la représentation de rôle et de l'identité professionnelle, c'est-à-dire l'intégration dans sa pratique et dans la vision de sa pratique de ce qu'on a appris. L'évolution de la satisfaction vis-à-vis de la relation et la satisfaction par rapport à la formation. Quelques informations clés qui me semblent intéressantes à vous transmettre. On a ici, l'évaluation a été faite sur la première cohorte, qui représentait 80 soignants, pardon, avec un des résultats clés là-dedans qui me semble vraiment important, c'est la reconnaissance des attitudes et des compétences des soignants comme étant un facteur clé dans le comportement du patient. C'est-à-dire accepter que mon comportement de soignant soit un des éléments qui me permet de comprendre pourquoi le patient se comporte comme ça. Généralement, on a plutôt tendance, y compris dans des démarches de diagnostic éducatif, d'aller chercher chez le patient les causes à son comportement. Et ici, reconnaître que d'une part, cette relation thérapeutique, ce n'est pas le patient qui en est le seul responsable, la façon de se comporter des soignants est un élément clé, et l'environnement global de soins, mais aussi social, du patient est un autre élément clé. Et ici, manifestement, ça a été parfaitement acquis par les participants, vu qu'ils ont cité les attitudes et les compétences des soignants d'une part, et l'environnement professionnel, en tout cas médical et social du patient, comme étant les deux premiers éléments sur lesquels il faut travailler pour modifier les comportements des patients. Dans la représentation de rôle aussi, des modifications très importantes entre avant et après la formation, aussi bien sur le fait que les soins médicaux visent finalement le bien-être du patient, qu'il est important de parler des difficultés du traitement pour le patient, intégré dans la représentation de rôle et dans l'identité du soignant, qu'il faut adapter le traitement au patient et pas le contraire, qu'il faut évaluer avec le patient le suivi la situation sanitaire ou biomédicale du patient, qu'il faut impliquer les proches du patient, etc. Parmi les compétences que les soignants ont estimées comme étant acquises et améliorées et pratiquées, je voudrais revenir juste sur celles qui sont mentionnées en vert et en rouge. En rouge, 60% des soignants estiment qu'ils ont appris à explorer les représentations du patient sur la maladie et le traitement, qui est un élément clé dans l'analyse des besoins, mais qu'ils le pratiquent. Ça veut dire qu'il y en a 40% qui l'ont appris et qui ne le pratiquent pas. C'est vraiment manifestement un des gros points noirs. Je crois savoir de quoi il s'agit, parce que former des soignants en 9 jours, il s'agit de 9 séances, c'est insuffisant. Les travaux qu'on a fait entre équipes OMS il y a 4 ou 5 ou 10 ans maintenant, on était arrivé à un minimum pratiquement de 70 heures pour arriver à une formation adéquate et cohérente des soignants à l'éducation du patient. Donc nous les avons formés à explorer les représentations du patient sur sa maladie, sur son traitement, avec des exercices, avec des jeux de rôle, avec des activités comme ça, mais manifestement c'est insuffisant pour que les soignants eux-mêmes se sentent en capacité de faire ce genre de choses qui demandent quand même un doigté assez important. Par contre, sur le plan de l'identification des difficultés que rencontre le patient, et je parle des difficultés quotidiennes, des difficultés concrètes, là on a vraiment le résultat le plus flagrant. 95,6% des soignants estiment qu'ils ont amélioré leur capacité à identifier les difficultés des patients et qu'ils mettent en pratique ces nouvelles compétences et ces nouvelles capacités. Y compris.
Est-ce qu'on peut te demander de finir en 2 minutes ?
Bien. Non, mais quand Rémi m'a téléphoné pour m'inviter, j'ai dit un quart d'heure, c'est hors de question, je viens pas. Donc il m'a dit, on t'en donnera plus, t'inquiète pas.
Mais c'est déjà donné.
Oui, je regarde ma montre. Sur l'évaluation, toujours des effets auprès des soignants, je retiens aussi deux résultats qui me semblent importants. La capacité d'expliquer aux patients sa maladie et son traitement en termes clairs, ce qui donne l'impression d'être la partie la plus simple de l'éducation du patient, c'est-à-dire expliquer la maladie en de termes clairs et accessibles et compréhensibles, expliquer le traitement, n'est pas toujours acquis. Ça a été un des aspects sans doute aussi difficiles dans la formation que d'aborder les aspects de type psychosocial. Expliquer à un patient diabétique ce que c'est que le diabète, croyez-moi, ce n'est pas du tout simple. Expliquer à un patient diabétique ce que c'est qu'une maladie chronique, ce n'est pas du tout évident. Même chose pour montrer pratiquement à un patient comment on utilise un médicament. Déballer un aérosol doseur devant un patient dans un cabinet de consultation, lui expliquer comment on s'en sert. Même chose pour le diabète, même chose pour la prise en charge des maladies coronariennes et autres. Ce n'est pas simple. En tout cas, il y a eu des réussites sur ce plan-là. Sur l'accompagnement du patient, la capacité d'adapter avec le patient le traitement et le travail éducatif dans le temps, c'est-à-dire de négocier. Négocier, contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de contrats dits éducatifs dans ce pays, je parle de la France parce qu'en Belgique on fait mieux, j'ai vu des contrats éducatifs dans lesquels il y avait une litanie, une énumération de devoirs que le patient s'engageait à remplir, et en dessous desquels il devait signer. Ça s'appelle un contrat de marchand de voitures d'occasion, ça. Ce n'est pas un contrat éducatif. Un contrat éducatif, c'est un document dans lequel soignants et patients s'engagent respectivement, chacun, à apporter une part de quelque chose. Il n'y a pas de négociation s'il n'y a pas eu de compromis. Et un compromis, ça veut dire que chacun doit céder quelque chose quelque part. Donc le gros du travail ici dans la formation, c'est travailler avec les soignants pour qu'ils puissent identifier ce qu'ils sont prêts à céder dans leur proposition de traitement pour rendre le traitement acceptable et qu'en fin de compte, le patient le suive. Et enfin, soutenir et renforcer les efforts du patient. Au niveau de l'évaluation chez les patients, le dispositif a finalement porté sur 374 patients. Je vous laisse les deux groupes, pilotes et témoins, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont relativement similaires. Ce que je voudrais juste retenir, c'est que nous avons travaillé sur tous les aspects de l'éducation psychosociale, c'est-à-dire la qualité perçue de la relation de soins. C'est indispensable d'identifier comment le patient perçoit la relation qu'il a avec son médecin, son infirmier, son kinésithérapeute. Les connaissances qu'il a concernant la maladie et le traitement, ça semble évident. Son lieu de contrôle de la santé, son sentiment de maîtrise, son sentiment d'efficacité à l'égard du traitement, le fait qu'il se sente en capacité de le faire ou non, indépendamment du fait qu'il soit capable réellement de le faire ou non. Son suivi du traitement, sa perception du traitement, l'utilité, la faisabilité, la réalité du traitement, la qualité de vie globale, quelques indicateurs cliniques rapportés par les patients eux-mêmes, l'impact perçu de la maladie sur la vie et l'impact, la menace perçue de la maladie aussi. Des résultats positifs, on en a toute une série, positifs et statistiquement significatifs, parce qu'on a des groupes suffisants de patients ici. Je vous laisse juste prendre connaissance de ça. Beaucoup d'impacts positifs visibles et nets au niveau de la relation. Les patients pensent que leurs soignants leur permettent de poser plus de questions, qu'ils les incitent à poser plus de questions, qu'ils sont capables de manifester plus facilement leur désaccord avec les propositions thérapeutiques qui leur sont faites, qu'ils trouvent que leur médecin en particulier leur demande plus facilement leur accord quand il leur propose un traitement ou une adaptation, une modification du traitement, etc. Un certain nombre de résultats positifs, mais pas significatifs sur le plan statistique, ils sont à la limite du seuil de signification, le lieu de contrôle interne, la capacité, le sentiment d'efficacité à suivre le traitement, la connaissance de la maladie, la perception d'utilité du traitement, un certain nombre d'aspects liés à la relation et une question liée à la satisfaction du patient par rapport au fait de se sentir soutenu, parce que le soutien social est un élément important de tout ceci. Sur les plans des résultats cliniques, on a une série de résultats positifs intéressants aussi, mais avec un seuil de signification limite. Diminution de la gêne diurne ou nocturne pour l'asthme, diminution des sensations d'oppression chez les patients coronariens, moins d'essoufflement chez les patients insuffisants respiratoires et chez les diabétiques, les observations qui sont connues. Et enfin, pas de changement pour un certain nombre de choses, sur le fait de pouvoir parler de sa maladie, qui est un élément important du soutien social, le fait de percevoir éventuellement une évolution de son état de santé ou pas, mais surtout, deux ou trois résultats un peu négatifs, mais dont le sens nous échappe encore, ces derniers résultats sont tout frais, ils datent d'il y a 3 semaines à peine. un nombre plus important d'hospitalisations imprévues chez les patients du groupe pilote par rapport aux patients du groupe témoin, un nombre un peu plus important de recours aux services d'urgence chez les patients du groupe pilote par rapport au groupe témoin, une utilisation plus importante des aérosols doseurs chez les patients asthmatiques, bien entendu, du groupe pilote par rapport au groupe témoin, et l'inverse pour le moins. Et enfin, une perte de poids, moins importante dans le groupe pilote chez les patients obèses et un gain de poids un peu plus important chez les patients du groupe pilote. Nous n'avons pas d'explication, il y a un certain nombre d'hypothèses. Ce que je voulais simplement partager avec vous, c'est qu'il y a des choses qui me semblent claires. Quand on dit que l'éducation thérapeutique du patient va réduire les coûts, ce n'est pas toujours sûr. Parfois, le fait qu'un patient ait un recours plus adéquat au service d'urgence ou à son médecin en cas d'urgence, soit mieux capable de détecter ou des symptômes de crise ou d'aggravation, ça va augmenter le coût, au fond, parce qu'il va avoir recours aux soins un peu plus fréquemment, mais peut-être à meilleur escient, par ailleurs. Ceci dit, il y a aussi des effets qui sont inexpliqués et qui sont un peu bizarres. Moi, je n'ai pas d'explication, j'ai que des hypothèses. Peut-être qu'il était un peu trop tôt pour évaluer l'évolution au niveau du poids, parce que la durée est peut-être insuffisante, ou peut-être simplement que nous avons joué sur un certain nombre de facteurs qui n'étaient pas suffisants pour apporter certaines modifications. En tout cas, ça mérite aussi de se pencher sur les choses qui fonctionnent moins bien que ce qu'on attendait. Voilà, pour la suite de l'évaluation, on est en train d'analyser les entretiens de diagnostic, c'est-à-dire les outils de diagnostic éducatif, et les fiches de suivi qui sont utilisées par les soignants d'une rencontre à l'autre, d'une consultation à l'autre, d'une visite à l'autre, pour répondre aux questions, comment les soignants se servent de ces entretiens de diagnostic, et qu'est-ce que les patients nous disent à travers ces entretiens de diagnostic, d'une part, et d'autre part, comment se réalise le suivi, comment les soignants arrivent-ils à articuler, d'une consultation à l'autre, ce qui se passe pour inscrire dans la durée et dans le temps le travail éducatif qui doit être finalement morcelé et articulé. Je termine en disant, les patients chroniques qui ont été suivis dans le cadre de ce projet, ils sont un peu plus de 1000, en moyenne, ils voient leur médecin 12 fois par an. Ça fait 12 occasions de faire de l'éducation du patient. Merci.
Merci beaucoup.